Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des haies mellifères. Afin de devenir un territoire plus accueillant pour les insectes pollinisateurs, le Parc National a lancé 3 appels à projets à destination des agriculteurs et des communes pour planter des arbres et des arbustes afin d'apporter un peu plus de nectar et de pollen à ces insectes. Et donc je suis en compagnie de Anne Collin, chargée de mission agro-environnement au Copage de Lozère. Bonjour Anne.
Bonjour.
De Sylvestre Vincent, qui est agriculteur à Vébron. Bonjour Sylvestre.
Bonjour Natacha.
Et de Camille Savary, chargée de mission pollinisateur au parc. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et bien Camille, la première question est pour vous. Donc, 3 appels à projets ont été lancés. Donc, quel bilan dressez-vous de cette opération? Est-ce qu'elle a bien fonctionné?
Oui, elle a très très bien fonctionné parce que ce sont 50 agriculteurs et 19 collectivités qui ont bénéficié de ce programme. Le parc a commandé à peu près 19 000 plants au total, donc c'est un gros projet. Et les retours sont plutôt positifs de la part des porteurs de projets et des habitants qui voient la concrétisation des plantations. Donc c'est un programme qui a été financé hein, donc, dans le cadre à la fois du plan de relance mais aussi de l'Europe, donc via le FEDER, la région et l'État. Et aussi les chantiers des communes ont été réalisés via des chantiers participatifs impliquant les écoles et les habitants. Donc tout ceci fait que voilà, les habitants du territoire ont pu participer à ces plantations.
Donc pour rappeler, les plans hein, ont été financés par le parc. Voilà, les plans ont été distribués gratuitement. Hein.
C'est ça, oui, c'était un financement à 100%, donc des plants, mais aussi des fournitures. Il y avait des protections et du paillage qui étaient fournis et un accompagnement technique via le Copage et Agrouve. Donc je laisserai la parole à Anne Collin pour parler de cet accompagnement technique.
Donc j'imagine que vous avez eu de nombreuses candidatures, il y a une sélection qui a été faite. Alors comment on sélectionne les projets ?
Alors oui, donc il fallait que, donc pour la partie agriculteur, il fallait avoir donc le statut d'agriculteur, avoir une exploitation agricole, il fallait avoir une localisation géographique sur le territoire, être un habitant du territoire du parc. En ce qui concerne les agriculteurs, on n'a pas eu besoin de faire une grosse sélection sur les dossiers. Globalement, on a pris à peu près tout le monde. En revanche, concernant les communes, on a eu énormément de dossiers. Ce qui fait qu'on a dû sélectionner les projets en fonction de la faisabilité du projet. Également, si on a privilégié des espaces où il y avait des espaces publics, par exemple des places de mairie, à proximité des écoles, pour qu'il y ait des lieux de passage. Et aussi des projets en lien avec la biodiversité, la préservation des pollinisateurs et aussi l'implication des habitants et des écoles dans les projets. Donc voilà, c'est tout un ensemble de critères qui ont permis de faire notre sélection.
Donc, quels plans ont été proposés? Enfin, comment ils ont été choisis et d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que ce sont des plantes locales?
Alors, en amont de faire les appels à projets, donc on a fait un travail de recherche biblio pour voir quelles étaient les essences mellifères, privilégier des essences locales. Donc, on a établi une liste d'une trentaine d'essences locales qui sont adaptées au territoire. Parce que sur le territoire, on retrouve différents types de sols, hein, que ce soit du calcaire, du granit ou du schiste. Il fallait des essences qui puissent être adaptées selon le contexte et permettre aussi un étalement des floraisons pour que les pollinisateurs aient de la ressource tout au long de l'année. Quand on dit essences mellifères, donc ce sont des essences qui produisent du pollen et du nectar pour les pollinisateurs. Et du coup, on a passé commande auprès de la pépinière Naudet pour commander ces plants. Cette pépinière proposait des espèces labellisées végétales locales. Donc, on a privilégié cette marque végétale locale qui récolte des graines dans le milieu naturel. Donc, on a une origine, on peut avoir l'origine des plants grâce à cette marque.
Donc, vous le disiez, le parc a été accompagné par deux techniciens, Agrouf pour le Gard et le Copage en Lozère. Donc, Anne, quel a été le rôle du Copage et le vôtre donc, tout au long du processus de cette opération?
Alors, le Copage, du coup, a répondu à l'appel à projet du parc pour accompagner techniquement donc, les agriculteurs et les collectivités pour les projets de plantation. Du coup, cette mission a consisté à donc, aller voir chaque porteur de projet, réaliser un diagnostic, voir où et quel type de haie il voulait mettre en place, en fonction du type de sol, de l'altitude, de l'objectif aussi final, savoir est-ce que c'était pour faire des brise-vents, est-ce que c'était plutôt des décoratives, fruitières. Voilà, il y avait plusieurs types de haies possibles par rapport aux essences proposées. Du coup, à chaque diagnostic, on a fait une proposition de plantation qui a été validée par les agriculteurs et les collectivités. Et on a réceptionné les plants, on les a distribués aux agriculteurs. Et pour les collectivités, on a aussi fait un suivi des chantiers de plantation qui ont été réalisés par une entreprise extérieure. Alors, il faut savoir que le Copage, aujourd'hui, fait partie d'un réseau régional qui s'appelle la FAC Occitanie. Donc, en fait, fait partie des structures départementales qui sont référentes pour la plantation de haies. Et de ce fait-là, du coup, je pense que le parc a reconnu ces compétences-là en nous recrutant.
Quand on va faire un diagnostic sur un terrain, qu'est-ce qu'on regarde sur le terrain?
Alors, on regarde on regarde plusieurs choses. On regarde l'exposition du sol par rapport au soleil, par rapport à la lumière. On regarde la profondeur de sol, le type de sol, à savoir si c'est calcaire ou basique ou plutôt acide. On regarde l'altitude où se trouve le projet de plantation. Et en fonction de ça, on compose justement une liste d'espèces qui paraissent adaptées à ces différents types de contextes. Dans certains cas, on a des demandes un peu expérimentales. Et du coup, on peut proposer aussi des fois des essais, en fait, par rapport à certaines essences. Notamment si, voilà, il y a un objectif derrière de récolter certains fruits. Il y a des fruitiers sauvages qui sont proposés, mais les agriculteurs, pareil, peuvent faire des greffes derrière pour avoir des variétés fruitières qui pourront récolter à l'avenir. Donc ça peut faire partie aussi des choses sur lesquelles on essaye de s'adapter au maximum.
Et vous donnez des conseils pour la plantation ?
Oui, on donne des conseils à la plantation. Donc tout le matériel est fourni par le parc. Et derrière, on rappelle un peu les règles de plantation, à savoir le travail du sol préalable, comment poser les paillages, savoir que le paillage est là à la fois pour protéger les petits plants, parce que c'est des plants d'un ou deux ans qui sont souvent en racines nues, donc protéger les petits plants par rapport à l'endherbement les premières années pour éviter la concurrence. Et aussi permet de conserver un peu mieux l'eau dans le sol, notamment par rapport aux des périodes de sécheresse. On donne les conseils pour l'arrosage, si nécessaire. Et à la suite de ça, on donne aussi les conseils sur l'entretien qui va être fait de ces arbres dans les années à venir. Donc notamment, le parc nous a demandé aussi d'animer plusieurs formations, dont une sur la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire plutôt de laisser faire les implantations naturelles de semis, de temps en temps de les compléter, et la façon de faire, notamment de protéger à l'aide de clôtures pour éviter l'abrutissement par les animaux domestiques, notamment, ça c'est important. Et on fait aussi une formation sur l'entretien des haies, et notamment à la destination des collectivités, là, qui va avoir lieu la semaine prochaine.
Est-ce qu'il faut les arroser, les haies ?
Alors, la première chose à faire, déjà, c'est à la plantation, faire un plombage. Donc c'est un bon arrosage de façon à ce que les racines soient bien protégées par la terre sans qu'il y ait des bulles d'air en fait qui restent dans le sol. Donc ça, c'est le principal objectif, et ça crée une réserve d'eau aussi de base pour que les plants puissent se développer correctement. Et après, il y a une surveillance à avoir, mais notamment les premières années, puisque c'est des jeunes plants qui ont des racines peu développées. Donc l'idée étant de les arroser, mais pas très souvent, peut-être une à trois fois par an maximum, sauf en période de pluie, de façon à les aider à s'implanter en profondeur et ensuite leur permettre de s'adapter petit à petit au climat local. Donc il faut éviter de trop les arroser, justement, de façon à ce que les arbres, à terme, n'aient plus besoin d'arrosage.
Très bien, je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king bee. Want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. I'm a king bee, can buzz all night long. Well, I'm a king bee, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone.
Et nous sommes de retour pour parler des haies mellifères. Sylvestre, vous faites partie des 50 agriculteurs qui ont planté des haies sur leurs exploitations. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre projet, pourquoi vous avez candidaté et ce que vous avez souhaité faire?
Alors, moi, j'ai eu des intérêts multiples à ces haies. Donc, j'ai eu fait deux haies, une l'année dernière et une que j'ai implantée cette année. Dans un premier temps, ça a été de pouvoir effectivement fournir une ressource en nectar et pollen pour les pollinisateurs. Et puis, j'ai vu l'intérêt de pouvoir dessiner ma parcelle d'habitation en trois espaces distincts, qui a été ma partie exploitation, ma partie domicile, une petite partie accueil à la ferme. Donc, et un intérêt supplémentaire et pas négligeable sur parce que je suis assez exposé au vent et du coup ça me fait faire des brises vent.
Donc les intérêts sont multiples, hein, vous y avez vu plein d'avantages.
Vraiment, et puis c'est quelque chose, quand j'ai commencé à faire des jardins, j'ai vu l'intérêt de mettre des haies. Et Le problème, il était financier, c'est que j'avais pas la capacité de payer autant de plants et tout ça. Donc quand c'est arrivé, ça semblait évident de le faire, quoi.
Ça représente, vous avez planté combien d'arbres, justement?
Moi, en tout, du coup, ça fait plus de 250 plants. Donc voilà, c'est conséquent, quoi.
Donc ça commence déjà à donner quelque chose.
Et plus le paillage en fibre de coco, qui est voilà, enfin c'est pas tous les jours qu'on peut avoir ce genre de paillage. Enfin c'est bien fait. Voilà.
Donc vous faites de l'accueil à la ferme aussi, c'est-à-dire aussi, vous avez des gîtes, vous avez une exploitation et des gîtes,
des tentes.
Ouais. Donc ça permet de faire des petits emplacements.
Non, vraiment de délimiter toute la partie accueil. Et puis en fait, là où je mets les tentes, c'était déjà délimité, mais ça permet vraiment d'avoir toute une parcelle, enfin tout un espace bien délimité dédié à cet accueil qui coupe de ma maison.
Et au niveau de votre exploitation, enfin vous produisez quoi?
Alors actuellement je fais des chevaux et des moutons, mais à l'époque j'étais en production de miel, du coup pareil il y avait une résonance avec ce que je faisais. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connecté avec le copage et tout ça.
Et donc quelles essences vous avez choisies? Qu'est-ce que vous avez sur votre exploitation?
Il y en a où c'est, je sais plus tellement, mais il y a de la mélanchier, du noisetier, de l'alisier blanc, des cynérodons, cognassier, pommier, qu'effectivement on va pouvoir greffer. Noisetier, ouais, voilà une dizaine d'espèces différentes.
Donc l'idée c'était d'avoir aussi des fruits.
Aussi, ouais, aussi.
Et donc, comment s'est passé? Enfin, vous avez eu un diagnostic aussi sur votre terrain. Enfin, comment ça s'est construit un petit peu le projet?
Pardon. Une première fois, Anne est venue. On a pu voir un peu le terrain. Et puis, en plus des altitudes, de la qualité du sol, de la profondeur, il y avait la capacité de pouvoir arroser. J'avais accès. J'ai des sources sur le terrain, donc voilà, c'était possible. Et c'est vrai qu'avec la sécheresse qu'il y a eu cet été, c'était... moi, j'ai arrosé plus de 3 fois. Hein. C'est mal pour l'enracinement, mais pour moi, c'était nécessaire. Je pense vraiment qu'il y avait vraiment besoin cette année-là. Quoi.
Et justement, ça a donné quoi? Enfin, les plants, du fait que vous avez arrosé, ils sont en bonne santé?
Oui, alors j'ai eu 5 ou 6 plants qui n'ont pas donné. Sur 150 de la première haie. Donc, c'est une petite perte, quoi. C'est une petite perte. Je pense que c'est dû aux râteaux-pieds. J'ai vu que c'était pas mal là où il y avait les râteaux-pieds qui avaient eu des dégâts.
Et la plantation, vous l'avez fait avec des amis, peut-être?
Oui, on était 3 la première, 3 la première fois et 3 la deuxième.
Ça demande quand même un sacré travail hein, de préparer le terrain. De...
Alors moi, j'avais la chance d'avoir des gros outils mécaniques sur le terrain au moment où il a fallu préparer le sol. Donc ça a été très, très facile. Et puis après, mais c'est vrai que si on doit le préparer soi-même à la main ou à l'aide d'un motoculteur, faut prendre le temps. Il faut se dire qu'il va y avoir ce temps-là. Partie à la plantation des... C'est pas juste... Faut pas venir avec une baramine, ouvrir un trou et jeter le plant au fond, quoi.
Voilà. Vous les aviez plantés directement après réception ou...
Alors là, cette année, j'ai pas pu. La première année, on avait eu un décalage, c'est ça. On avait eu un décalage moi, j'avais été fourni assez tard. Donc j'ai planté dans la foulée parce que le sol n'était pas gelé. Là, on a reçu les plants et le sol était dur comme de la pierre, là, tout pendant... Je sais plus... 3 semaines quasiment. Donc ils ont attendu en jauge et après je les ai mis en place là, récemment en fait.
Très bien. Anne, Camille, Sylvestre hein, parlait des différents avantages hein, des haies qui ne sont pas seulement là pour apporter du nectar. Est-ce qu'il y a d'autres avantages aux haies?
Alors oui, moi je peux répondre. Il y a l'effet brise-vent dont a parlé Sylvestre hein, pour protéger contre pour diminuer justement la vitesse du vent. Il y a la stabilisation du sol aussi, par exemple en zone inondable où il y a de la pente, ça permet quand même de stabiliser le sol et de limiter l'érosion. C'est aussi un avantage pour la biodiversité parce que ça c'est des zones de refuge pour pas mal d'espèces animales. Ça apporte le gîte et le couvert aux pollinisateurs aussi. Donc c'est une trame écologique importante pour la biodiversité et tout un ensemble d'écosystèmes. Après, je ne sais pas si tu veux compléter, Anne.
Alors, je peux rajouter quelques rôles
que les agriculteurs en fait recherchent aussi en plantant des haies, c'est-à-dire que ça peut apporter un bon abri en fait pour les animaux par rapport à l'ombrage que les haies à terme pourront amener sur les parcelles. Donc les brise-vents, il est important aussi pour éviter les sécheresses, mais ça aussi par rapport à la capacité de rétention en eau, un effet positif en fait sur les cultures qui sont attenantes aux haies. Donc par rapport à la pousse de l'herbe entre autres, et certains agriculteurs recherchent aussi l'aspect fourrager de la haie, c'est-à-dire que en fait en période de sécheresse en fin d'été il peut y avoir des fois des entretiens faits pour donner la feuille aux animaux, ou les animaux eux-mêmes en fait peuvent accéder à une partie de la haie, on va dire, sachant que l'objectif c'est de bien la protéger, mais tout ce qui dépasse de la clôture, si la haie a suffisamment de place en fait, est accessible aux animaux et généralement est consommée.
Donc c'est la plantation de haies à l'échelle nationale, on le voit, hein, ça se fait, je vais dire, c'est à la mode depuis quelques années, surtout dans des régions où on a supprimé le bocage. C'est une réponse au changement climatique, ça en fait partie.
Je pense que c'est une très bonne réponse au changement climatique, et c'est bien dommage qu'il y ait autant de haies qui aient disparu historiquement. Donc effectivement, on a énormément de demandes sur la Lozère, comme partout en France, hein, pour des plantations sur les parcelles agricoles. Et en particulier, en fait, suite à ces dernières années, avec ce qui est recherché, effectivement, ce que j'ai dit, enfin, les intérêts agricoles qui sont reconnus, sachant que les arbres, en fait, d'eux-mêmes créent des microclimats, et ont un rôle important aussi par rapport à l'humidité de l'air et l'eau dans le sol. Donc je pense que c'est vraiment une des réponses à favoriser pour le changement climatique, même si on a des inquiétudes sur la résistance à long terme de certaines essences. En fait, on le voit déjà sur le châtaignier, hein, il y a des châtaigniers qui ont tendance à sécher là, dans les Cévennes, et certains projets justement étaient là pour essayer de diversifier un petit peu plus la liste des essences pour remplacer à terme peut-être des arbres qui ne tiendront pas le coup.
Oui, là sur la liste des 30 espèces, on ne sait pas encore d'ici 10 ans, 20 ans si elles résisteront toutes. Vous avez peut-être eu déjà des retours, non, sur certaines qui, peut-être, c'est encore un peu trop tôt par rapport à certains agriculteurs qui auraient planté l'année dernière et dont on voit que sur, je ne sais pas, 10, 20 projets, que certaines essences, tiennent moins le coup. Non, c'est trop tôt.
Alors, il y a eu certaines essences où on a observé de la mortalité. Après, on ne peut pas expliquer si c'est dû au changement climatique ou si ça a été dû aux conditions de plantation ou alors aux conditions locales de sol. C'est encore trop tôt pour l'expliquer. Mais c'est vrai qu'on a remarqué que certaines essences, il y avait eu de la mortalité sur certaines essences plutôt que d'autres.
Et justement, donc vous parliez de, enfin, il y a beaucoup de demandes. Hein, alors, si des particuliers nous écoutent et qui souhaitent planter des haies, alors à qui ils peuvent demander conseil, ou est-ce qu'ils peuvent aller acheter des plants, enfin, sans faire trop de pub, hein, mais voilà, pour ceux qui seraient intéressés.
Alors, je peux répondre par rapport à l'action du copage, hein, qui est menée aujourd'hui à l'échelle de la Lozère depuis maintenant 3 ans. Du coup, en fait, on propose effectivement des projets de plantation qui sont accessibles à tout type de bénéficiaires, en fait, que ce soit des collectivités, des agriculteurs ou même des particuliers peuvent s'adresser au copage pour faire des projets de plantation, sachant qu'on a aujourd'hui des aides qui nous viennent principalement de la région du département, qui permettent de financer une partie de la fourniture des plants et du matériel de protection et de paillage. Et en fait, on s'occupe vraiment de faire des commandes groupées à une pépinière qui se trouve dans le Cantal et qui est aussi labellisée végétale locale. Et qu'on accompagne aussi un projet de pépinière pédagogique qui se trouve à Javol, l'école forestière de Javol, qui à terme peut-être pourra fournir aussi des plants lozériens. Et depuis 2 ans, le copage réalise aussi la collecte des graines et fournit en fait une partie de ces graines qui sont en fait collectées et mises en commun au niveau régional, en fait par secteur géographique, fournit une partie de ces graines aux pépinières pour qu'elles puissent produire des plants à partir des graines lozériennes.
Petite question, Camille, j'avais oublié. Est-ce que donc Sylvestre a planté l'année dernière, en début d'année, est-ce qu'il y aura une visite chez lui pour aller voir comment ça pousse ?
Alors, on est encore en réflexion sur le suivi à mettre en place, le suivi des haies qui ont été plantées. Mais on a des collègues au parc qui sont techniciens agri-environnement, qui vont sur le terrain, qui sont en interaction avec les agriculteurs. Donc, on va sûrement faire appel à eux pour prendre des nouvelles, aller voir les agriculteurs, prendre des nouvelles sur les haies qui ont été plantées et dans les années à venir, voir comment ça évolue, sachant que là, les plants qui ont été plantés, c'est des plants de 30 cm qui sont très très jeunes, donc il faut attendre quelques années, au moins 4 ou 5 ans, avant que la haie soit bien développée et qu'elle devienne fonctionnelle. Donc c'est vrai que les premières années, là, vont être vraiment importantes au niveau suivi et voilà, ce qui a été planté est vraiment un impact positif pour les pollinisateurs et les autres intérêts dont on a parlé tout à l'heure.
Donc ça veut dire qu'on ne touche pas à la haie les 2-3 premières années, il faut laisser pousser, on ne taille rien.
Alors il peut y avoir des tailles de préconiser dans certains cas pour densifier un peu plus les arbustes ou permettre justement aux arbres qui vont être plus hauts de bien pousser en hauteur. Ça peut faire partie de certaines préconisations selon l'objectif attendu de la haie et la place qu'on veut lui laisser. Mais effectivement, il n'y a pas forcément toujours nécessité d'intervenir.
Très bien. Et je rappelle que donc les porteurs de projets se sont bien sûr engagés à ne pas utiliser de pesticides. Et de la conserver pendant une certaine durée.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a fait signer, signature avec le porteur de projet et avec le parc, une convention d'engagement qui rappelle différents engagements sur le fait de planter la haie dans de bonnes conditions, entretenir selon les conseils du copage et d'Agrouf, et de pas utiliser de pesticides à proximité de la haie. Voilà tout un ensemble de d'engagements qui permettent justement de préserver la haie qui a été plantée et de la maintenir justement sur le long terme.
Très bien, donc c'est la fin de cette émission. Donc si vous souhaitez planter des haies, n'hésitez pas à contacter le copage. Et nous avons, nous, un petit article pour vous aider, pour vous donner aussi quelques conseils pour planter votre haie. Donc vous pouvez retrouver cet article dans les actualités sur le site internet du parc www.cevennes-parcnational.fr. Très bonne journée, à bientôt.